Vous écoutez, on lit pour vous.
Les parents de Léo encore face à un mur administratif. Un texte d'Hugo Beaucan, publié le 13 novembre 2025 dans le magazine La Liberté. À l'âge de 2 ans, le foie et la rate du petit Léo sont plus gros que la norme. Quelques visites chez le médecin, quelques tests sanguins, et l'on partage à ses parents, Kaïla et Mario Dupont, plusieurs théories, mais rien de grave. Vers l'âge de 3 ou 4 ans, l'on remarque des tremblements chez Léo, au réveil, au petit déjeuner lorsqu'il utilise une cuillère. On pouvait voir qu'il commençait à avoir de la misère. Son équilibre devient chancelant. Dans sa manière de marcher et de courir, les choses changent. Elles se détériorent. Au mois de juin 2025, tout bascule. Léo, maintenant âgé de 5 ans, est diagnostiqué avec la maladie de Niemann-Pick de type C. La maladie de Niemann-Pick est une maladie génétique rare, très rare. L'on estime qu'elle touche un enfant sur 100 000 naissances. Elle provoque l'accumulation de certaines graisses et lipides dans le cerveau et sur certains organes. Sur la durée, les organes touchés se détériorent et le système nerveux aussi. L'on perd alors progressivement ses capacités motrices ainsi que la parole. Il s'agit d'une maladie incurable pour l'heure. Les traitements existants ont donc surtout pour objectif d'adoucir et de retarder le développement des symptômes. Malgré cela, Léo reste un petit farceur, nous dit son père. Un petit gars qui aime faire des tours et qui est surtout admirateur de sport, surtout lorsqu'il s'agit de voir son frère et sa sœur jouer. Kaïla, sa maman, raconte que Léo ne manque jamais les pratiques de ringuette de sa sœur ni les sessions de curling de son frère. Avec un sourire en coin, elle partage l'anecdote suivante. Son frère prend des leçons de guitare et il demande toujours à aller voir. Je suis obligé de lui dire, Léo, personne ne regarde des leçons de guitare, mais il veut juste être là. Sans surprise, l'annonce du diagnostic a bousculé la vie de la famille installée à Steinbach. Il a fallu passer le choc initial et apprivoiser la réalité qui l'accompagne. Et puis, le couple s'est penché sur la suite. Accès aux médicaments. Dans le cas de Kaïla et Mario Dupont, cela s'est traduit par une bataille administrative pour obtenir l'accès à 2 médicaments qui permettent d'améliorer les symptômes et le confort de leur fils Léo, le miglustat et le miplifa. Et les choses se sont enchaînées rapidement. Le miglustat est un médicament qui a été approuvé par Santé Canada, mais qui ne figurait pas encore sur la liste des médicaments du Manitoba, explique Mario Dupont. Au mois d'août, une demande a été placée au niveau provincial pour que le miglustat soit approuvé sous le Exception Drug Status et rendu disponible cliniquement pour Léo. Après plusieurs mois sans nouvelles, la famille décide de rendre son histoire publique auprès de nos confrères du Steinbach Online, dans l'espoir de faire avancer les choses plus rapidement. Un article publié le 3 novembre et qui va tout changer. Nous avons reçu un soutien incroyable de la communauté, raconte le père de famille. Les gens ont envoyé des tas de courriels à la personne ministre de la Santé, Uzoma Asagwara, qui a fini par contacter mon épouse Kaïla. En milieu de semaine dernière, le médicament recevait l'approbation du gouvernement et Léo a pu recevoir sa prescription. Le couple se réjouit de la nouvelle, d'autant plus que sous le programme PharmaCare et avec l'assurance de Mario Dupont, les frais de traitement devraient être couverts en grande partie. Un soulagement lorsque l'on sait que le coût annuel du miglustat est d'environ 100 000 $. En ce qui concerne le miplifa, le médicament a été approuvé par la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis en septembre 2024. Pour y avoir accès, la famille francophone a dû déposer une demande auprès du gouvernement fédéral à travers le Special Access Program, SAP, une demande qui leur a été refusée sans vraiment d'explication, regrette Kayla Dupont. Encore trop tôt pour Miplifa? La docteure Cheryl Rockman-Greenberg est chercheuse clinicienne et professeure distinguée du département de pédiatrie et de santé de l'enfant de l'Université du Manitoba. Elle apporte un éclairage sur les processus de validation des médicaments. Le Miplifa a été approuvé par la FDA l'année dernière seulement. La compagnie qui a développé ce produit doit maintenant présenter une demande pour que le médicament soit approuvé en Europe et au Canada. Chaque pays doit faire passer le médicament dans son propre système de vérification et de test. C'est là que la SAP devient intéressante. Cette demande d'accès spécial intervient justement pour rendre accessibles des médicaments qui n'ont pas encore passé les processus scrupuleux de Santé Canada. Si le médicament est autorisé ailleurs et qu'il semble être salvateur, le Special Access Program permet de contourner les canaux classiques dans des cas particuliers. La généticienne explique pourquoi les canaux classiques prennent plus de temps. Ils collectent des données auprès des cliniciens, des patients. Ils enquêtent sur l'efficacité du produit, sa sûreté. Le processus d'approbation en est un particulièrement long, mais l'on travaille toujours à l'accélérer. L'histoire de ce médicament et son impact au long terme ne sont pas encore tout à fait connues. Je comprends les parents, mais il y a encore beaucoup à faire pour s'assurer que ce produit est sécuritaire. Pour que Santé Canada puisse débuter le processus, la compagnie pharmaceutique doit avant tout déposer une demande auprès de l'agence gouvernementale. Or, dans le cas de maladies rares, les compagnies pharmaceutiques peuvent estimer qu'il n'y a pas d'intérêt financier à le faire. Kayla Dupont, dont le téléphone ne cesse de sonner depuis le début de la semaine dernière, nous confiait avoir tenté de comprendre pourquoi leur demande de SAP avait été refusée. J'ai contacté la compagnie derrière Miplifa et il semblait dire qu'il n'avait pas d'intérêt commercial à venir au Canada. À ce propos, la généticienne se veut rassurante et fait valoir qu'il existe tout de même des avantages à faire exporter les médicaments pour les maladies très rares. Ces entreprises investissent beaucoup d'argent et bénéficient de beaucoup d'avantages financiers et matériels pour favoriser la recherche et le développement de ces médicaments. Des diagnostics difficiles à poser. Dans les cas qui concernent les maladies rares, l'expérience des familles est souvent similaire. On a le sentiment de se confronter à des déboires administratifs et un système médical qui peine à répondre à l'urgence. Mais la docteure Cheryl Rockman-Greenberg rappelle que si les maladies rares portent ce nom, ce n'est pas anodin. Il y a des imperfections dans le système. Mais les types de symptômes sont parfois communs à d'autres maladies et les médecins doivent se pencher un peu plus près sur le cas de leurs patients. Il existe plus de 8000 maladies génétiques rares et c'est parfois difficile de faire un diagnostic. Elle illustre son propos davantage. Lorsque l'on entend le bruit des sabots, l'on pense naturellement que c'est un cheval. Dans notre domaine, on s'entraîne à imaginer qu'il peut s'agir d'un zèbre. Elle indique que cet état d'esprit est enseigné aux étudiants en médecine et que le milieu médical travaille activement à faciliter l'accès à des spécialistes pour les premiers intervenants en santé, comme les médecins de famille. Il y a beaucoup de recherches pour améliorer la vitesse des diagnostics. Je pense que la manière de faire sera très différente dans une dizaine d'années. Ça a déjà beaucoup changé. Quant à rendre plus efficaces les processus d'approbation de médicaments, par exemple, et leur disponibilité sur le marché, là aussi, c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps, conclut-elle. C'était « Les parents de Léo encore face à un mur administratif ». un texte d'Hugo Beaucamp publié le 13 novembre 2025 dans le magazine La Liberté.
Se souvenir des femmes et des enfants de la miséricorde. Un texte de Nathalie Collard, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse. Quand j'ai appris qu'Hydro-Québec avait acheté le site de l'ancien hôpital de la Miséricorde dans le but d'y construire son centre de transformation électrique, je l'avoue, j'ai été bouleversée. Je suis née dans cet hôpital, aujourd'hui abandonné, et j'ai passé les premiers mois de ma vie à la crèche, située dans une autre aile du bâtiment. Cet endroit fait partie de mon histoire et je suis loin d'être la seule. Des dizaines de milliers d'enfants sont nés à la Miséricorde, qui abritait aussi une maternité pour les femmes mariées. Elles entraient par la grande porte, boulevard Dorchester, alors que les mères célibataires entraient en catimini par la porte arrière du bâtiment. Ces femmes-là repartaient rarement avec leurs bébés, qui étaient donnés en adoption. Aujourd'hui, des milliers d'enfants devenus grands recherchent leurs parents biologiques. Ils sont les victimes collatérales des diktats de la religion catholique qui a exercé un contrôle abusif des mœurs de la société québécoise durant des décennies. Une époque peu glorieuse de notre histoire durant laquelle les mères célibataires étaient traitées comme des parias. Mes craintes étaient grandes qu'Hydro-Québec invisibilise ses femmes et ses enfants une seconde fois. J'ai donc demandé à rencontrer la nouvelle présidente de la Société d'État, Claudine Bouchard, pour en discuter avec elle. Son agenda étant trop chargé, on m'a proposé une entrevue avec Marie-Julie Archambault, directrice des projets de poste chez Hydro-Québec. Madame Archambault l'avoue, elle ne connaissait pas grand-chose de la Miséricorde avant de se lancer dans ce projet, sauf qu'il s'agissait d'un institut dirigé par des religieuses. « Je m'y suis intéressée depuis », assure-t-elle. Les équipes d'Hydro-Québec, qui comprennent des sociologues, des experts en patrimoine et des archéologues, se sont également penchées sur la documentation racontant l'histoire de l'institution. Madame Archambault affirme aussi s'être impliquée personnellement dans les premières rencontres avec les représentants du Quadrilatère de la Miséricorde, un regroupement d'organismes qui rêvait de construire des logements et des studios d'artistes, entre autres, sur le site de l'ancien hôpital, abandonné depuis 2012. Marie-Julie Archambault a également rencontré Caroline Mas, qui porte le projet d'un lieu commémoratif pour la Miséricorde depuis des années. Hydro-Québec est consciente de son devoir de mémoire, assure la directrice des projets de poste. « On a une responsabilité sociale », lance-t-elle. Et, selon elle, le site est suffisamment grand pour développer un lieu de commémoration, puisque les installations électriques n'occuperait qu'environ la moitié de la superficie. Le site a un grand potentiel de conservation et la chapelle fait partie des bijoux du lieu, dit Mme Archambault. Hydro-Québec a l'intention de lancer un concours architectural qui devra intégrer l'histoire de l'ancien hôpital dirigé par la congrégation fondée par Rosalie Cadron-Jeté en 1848. Marie-Julie Archambault ne doute pas de pouvoir répondre à plusieurs des attentes et des préoccupations de ceux qui ont un lien avec la Miséricorde, car, rappelle-t-elle, ce n'est pas la première fois qu'Hydro-Québec est impliqué dans un projet de commémoration. Elle me cite, en exemple, le poste des Irlandais sur le site Black Rock à l'entrée du pont Victoria. La crèche de la Miséricorde a fermé ses portes en 1969 et l'hôpital en 1973. Il reste de moins en moins de femmes ayant accouché dans le grand bâtiment gris du boulevard René-Lévesque, mais il y a des milliers d'enfants et de petits-enfants qui souhaitent se souvenir de ce chapitre sombre de l'histoire du Québec. Il y a quelques années, j'ai participé à un parcours offert lors des Journées de la culture. On marchait autour de l'ancien hôpital en compagnie de deux enfants de la Miséricorde, dont Caroline Mass, qui nous en racontait l'histoire. Mon petit groupe était majoritairement composé de gens nés dans cet hôpital, et je vous assure qu'il y avait beaucoup d'yeux humides à la fin de la visite. J'ai compris ce jour-là à quel point le besoin de revenir sur les lieux de notre naissance était viscéral pour plusieurs, moi y compris. Madame Archambault dit en être consciente et explore l'idée d'un parcours photographique ou historique qui pourrait voir le jour en attendant la conclusion des travaux, quelque part au début des années 2030. On veut vraiment faire un beau projet, répète-t-elle. Je vous dirais que le volet poste est presque devenu secondaire. Il faut que je rappelle à mon équipe qu'on a des infrastructures électriques à construire aussi. Il y a vraiment un désir de faire quelque chose de bien. Les propos de Marie-Julie Archambault m'ont un peu rassurée. Comptez sur moi pour veiller à ce qu'Hydro-Québec tienne sa parole et remplisse son devoir de mémoire. La pire chose qui pourrait arriver, c'est que les femmes et les enfants de la Miséricorde soient effacés une seconde fois. C'était « Se souvenir des femmes et des enfants de la Miséricorde », un texte de Nathalie Collard, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse.
Travailler après 100 ans. Un texte de Hikari Hilda du New York Times, paru le 15 novembre 2025 dans Le Devoir. Le Japon compte environ 100 000 personnes âgées d'au moins un siècle, un record mondial, et la plus grande proportion par habitant sur la planète. La fragilité qui accompagne ce grand âge crée des défis pour le pays, où un taux de natalité historiquement bas signifie toujours plus de retraités et moins de travailleurs pour les soutenir. Mais pour certains, atteindre 100 ans n'est qu'une autre étape d'une vie bien remplie. Nous avons rencontré 5 centenaires remarquables qui attribuent leur longévité à une bonne alimentation, au système de santé abordable du Japon, à l'exercice et au soutien familial. Mais pour ces 5-là, il y a aussi autre chose. Le travail. Le réparateur de vélo. À 12 ans, Seichi Ishii rentrait de l'école lorsqu'il a remarqué une affiche « Employé recherché » dans la vitrine d'un atelier de réparation de vélo du quartier Shitamachi à Tokyo. Il avait toujours admiré les longues combinaisons bleu marine portées par les réparateurs et il rêvait d'en enfiler une à son tour. Plus de 90 ans après ses débuts, Ishii répare toujours des vélos dans son propre atelier. Même si les jambes de sa combinaison sont désormais trop longues pour son corps qui rétrécit, il se couche chaque soir en se réjouissant des clients qui viendront le lendemain. « Si je meurs ici, dans mon atelier, je serai heureux, dit-il. Je suis un homme de travail et ça ne change pas avec l'âge. » À 103 ans, Ishii aime toujours dévisser boulons et pneus et reconstituer l'ensemble des pièces bien que ses mains tremblent et que sa vue se soit affaiblie. Il se souvient d'avoir vécu la guerre, une époque très précaire. Ses revenus de réparation s'ajoutent à une pension mensuelle de 50 000 yens, soit environ 330 dollars. « On ne sait jamais ce qui peut arriver, » dit-il en préparant une soupe miso dans la cuisine encombrée derrière son atelier. « Réparer des vélos, lui procure encore plus de joie que le karaoké qu'il pratique chaque dimanche dans son bar préféré. Il s'y rend en tricycle. Lors de ses soirées spéciales, il enfile son ancienne combinaison, ourlet retroussé. La chef de ramen. 5 ou 6 jours par semaine, Fuku Amakawa assure le service du midi dans le restaurant de ramen familial aux côtés de son fils et de sa fille. Elle y fait tournoyer les nouilles dans un bouillon de porc à l'aide de longues baguettes et parsème les bols de ciboules ciselées. Je n'arrive pas à croire que j'ai travaillé aussi longtemps sans jamais m'ennuyer, dit-elle, en désinfectant les plateaux de service. Âgée de 102 ans, Amakawa reconnaît avoir toujours été un peu têtue. Elle a repoussé son mariage arrangé aussi longtemps qu'elle a pu, mais une fois mariée, elle a ouvert le restaurant avec son mari. Cette année, l'établissement a fêté son 60e anniversaire. C'est vraiment beau de pouvoir encore travailler. Physiquement et émotionnellement, cela change la qualité de ma vie, confie-t-elle, assise sous une photo dédicacée du chanteur et acteur Takuya Kimura, venu manger ici l'an dernier. La peau d'Amakawa luit, un fait qu'elle attribue à la vapeur qui enveloppe la cuisine. Sa plus grande peur, perdre la capacité de marcher. Le travail, dit-elle, l'aide à rester en forme. L'an dernier, une douleur à la poitrine l'a affolée. Elle craignait un problème cardiaque. Mais le médecin l'a rassurée. Ce n'était qu'une douleur musculaire due au soulèvement des lourdes casseroles. Le fermier. Les champs derrière la maison de Masafumi Matsuo étaient autrefois couverts de fleurs de colza jaune vif, ses préférées. Il adorait l'amertume légère de cette plante, qui devient sucrée une fois cuite et qu'il cultivait et vendait. Mais son fils, désormais à la tête de la ferme familiale, a remplacé les fleurs par du riz, une culture moins exigeante. À 101 ans, Matsuo cultive aussi des aubergines, des concombres et des haricots selon les saisons. « Je travaille pour rester en santé, » dit-il un matin de juillet, traînant un tabouret en plastique dans le champ pour s'y reposer entre 2 arrosages de semis de riz. Né, élevé et installé dans la même ville de montagne de la préfecture d'Ōta sur l'île de Kyushu, Matsuo a 3 enfants. Sa femme est décédée il y a 4 ans, un choc dont il ne s'est jamais complètement remis. Chaque matin, il monte les escaliers, se tenant à la rampe, jusqu'à l'autel bouddhiste qu'il a dédié à sa femme et lui offre du riz fraîchement cuit. Survivant d'un cancer de l'œsophage et, à 99 ans, d'un épisode de COVID, il passe désormais ses week-ends à jouer avec son arrière-petit-fils, Toki, âgé d'un an. Après le travail, il se repose sous son kotatsu, une table chauffante recouverte de lourdes couvertures, tandis que des sauterelles bondissent sur le rebord de la fenêtre. La conseillère beauté, Tomoko Orino, a toujours su qu'elle ne se contenterait pas de rester à la maison. Inspirée par une vendeuse qu'elle avait rencontrée, elle rêvait de vendre du maquillage. Mais en tant que jeune mère de 3 enfants, elle savait que, selon les normes sociales, travailler serait mal vu. À 39 ans, elle a croisé une amie dont le mari recrutait justement des vendeuses pour la même marque de cosmétiques qu'elle admirait depuis des années. Ses enfants étant plus grands, elle s'est lancée. Orino adore voir le visage de ses clientes s'illuminer quand elles essayent un rouge à lèvres ou un fond de teint qu'elle leur recommande. « La première fois que j'ai mis du maquillage, je me suis trouvée belle, » dit-elle. « Je voulais que d'autres ressentent la même chose. » Son mari, employé de bureau, n'aimait guère avoir une épouse active, mais la famille traversait une période financière difficile. Il lui a demandé de frapper seulement aux portes là où personne ne la connaissait. Elle a accepté, parcourant de longs trajets pour vendre ses produits. Rapidement, elle s'est mise à gagner plus que lui. Aujourd'hui veuve et vivant seule à 102 ans, elle fait ses ventes par téléphone avec seulement quelques visites à domicile. Restée occupée l'aide à combattre la solitude. Le reste du temps, elle tricote, nourrit le chat du voisinage avec des croquettes au thon et attend les visites autour d'une tasse de thé au long. Bien qu'elle ait survécu à la plupart de ses clientes, elle ne songe jamais à prendre sa retraite. « J'aime rendre les gens beaux, » dit Orino. Quand elle voit une cliente reprendre confiance en elle, c'est la partie la plus importante et la plus joyeuse de tout cela. La conteuse. Lorsque Tomeyo Ono s'installe sur un coussin pour commencer sa performance, la salle se tait. Puisant au fond de son corps frêle, elle entame le récit d'un taureau et d'un ourson, articulant chaque mot avec une précision parfaite. Tout en parlant, elle agite les mains avec énergie, captivant son auditoire. À la fin, la pièce éclate en applaudissements. Avec un répertoire de 50 histoires, Ono est une conteuse de minwa, ou conte populaire, un métier qu'elle a entrepris pour le plaisir après ses 70 ans. « Je n'avais jamais eu de vrai travail auparavant. Est-ce que je peux faire ça ?» se souvient-elle avoir pensé. « J'ai grandi en banlieue et à l'époque, les filles ne savaient pas qu'elles pouvaient avoir des rêves. » Aujourd'hui, âgée de 101 ans, elle est la membre la plus âgée et la plus bruyante d'un collectif de conteurs. Après le tsunami de 2011 qui a emporté sa maison à Fukushima, elle a juré d'intégrer les récits des survivants dans ses histoires. « Je vis pour raconter mes histoires, » dit-elle, les larmes aux yeux. L'idée que les contes populaires ou les souvenirs du tsunami puissent se perdre la terrifie. Chaque jour, elle écrit dans son journal et mange du natto, un plat gluant de fèves de soya fermentées glissées entre deux tranches de pain blanc moelleux. Parfois, elle s'assoupit en lisant le journal pendant que sa belle-fille range autour d'elle. « J'ai droit à un traitement spécial parce que je suis la plus vieille, » dit-elle en riant. Ono confie qu'elle ne rêve plus des vivants, mais ne voit que des amis et membres de la famille disparus. Elle est déterminée à continuer à raconter des histoires jusqu'à ce qu'elle les rejoigne. C'était « Travailler après 100 ans », un texte de Hikari Ida du New York Times, paru le 15 novembre 2025 dans Le Devoir.